Vous écoutez RTL.
Il est 18h. RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel.
Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'info. Elle a une, la rentrée, c'est maintenant, et pas seulement à cause du temps maussade. Tout à l'heure, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, monté sur l'estrade pour présenter la rentrée 2018, avec la poursuite du dédoublement en CP, en CE1, dans les quartiers défavorisés, l'interdiction du portable au collège et le début de la réforme du bac. Pendant que le Premier ministre, Édouard Philippe, débutait lui ses rendez-vous avec les syndicats pour tenter de désamorcer une rentrée sociale explosive. Alors dans RTL Soir, vous allez évidemment entendre Jean-Michel Blanquer. Nous serons à Paris, qui ferme des classes, faute d'élèves, oui vous avez bien entendu. Et puis à 18h20, Philippe Martinez fait sa rentrée médiatique sur RTL, après avoir été reçu à Matignon. RTL Soir, première édition, avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Les autres titres du journal de 18h.
Marie Laguerre a gagné une bataille. Son agresseur, interpellé lundi, a reconnu les faits. L'étudiante qui s'était dressée contre le harcèlement de rue est soulagée et plus combative que jamais, vous allez l'entendre. La vie sans hulot, jour 1. C'est seul qu'Édouard Philippe a effectué un déplacement dans les Alpes sur le thème de l'eau. Le séminaire gouvernemental prévu vendredi est repoussé d'une semaine pour cause de remaniement. Déplacement sur l'eau car notre réseau de distribution fuit de toutes parts, une vraie passoire, 1 litre sur 5 est perdu. Le gouvernement va aider les collectivités à colmater les brèches. À suivre également Emmanuel Macron au Danemark. Le président français se pose en principal opposant aux populistes italiens et hongrois. Et puis, dernier tour de piste aux étoiles pour Rosa Buglione. Toute la famille du cirque lui a rendu hommage ce matin au cirque d'hiver. La Bourse de Paris, elle termine en hausse de 0,30% à 5 501 points. Les courses à Deauville, il fallait jouer le 11, le 5, le 14, la et le 3.
Et à la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, restaurateurs, menuisiers, de nombreux secteurs galèrent pour recruter et demandent au gouvernement de faciliter l'embauche de migrants. Mais aujourd'hui, pourquoi c'est compliqué d'embaucher des migrants? Et demain, ça se passerait comment? Puis direction les coulisses de l'actualité. Y a-t-il encore un pilote dans l'avion? Après le départ donc de Nicolas Hulot, on vous emmène en coulisses au ministère de la Transition écologique. 18h30 Alain Duhamel, ce soir un remaniement de crise. 18h35, document RTL, vous vous en souvenez, c'était lui qui était à l'origine de l'évasion rocambolesque des pilotes d'Air Cocaïne, une exfiltration qui lui a coûté 2 ans de prison en République dominicaine. Et pour la première fois, sur RTL, donc, Christophe Naudin livre sa vérité. 19h15, on refera le monde. Bonsoir Louis Baudin.
Bonsoir Marc-Olivier.
À demain, c'est le retour d'un temps plus calme. Quelques averses quand même dans l'Est. Hein.
Oui, exactement. Mais c'est vrai que les orages encore violents que l'on a actuellement sur l'Est vont disparaître en cours de nuit. Et à l'arrière, demain, on retrouvera un ciel un peu plus changeant. C'est vrai qu'on aura encore en gros moitié nuage, moitié soleil dans la plupart des régions. Un peu plus d'éclaircies quand même dans la moitié sud, notamment près de la Méditerranée, avec l'aide du Mistral et de la Tramontane qui souffleront jusqu'à 60, voire 70 km/h. Mais il restera, vous l'avez dit, quelques averses ici ou là, notamment près des frontières de l'Est, entre les Alpes et la Corse, notamment, mais ailleurs, donc avec ce ciel un petit peu plus calme. Les températures vont commencer à remonter. 18 à 20 degrés près de la Manche, mais 20 à 23 degrés dans les autres régions de la moitié nord, 23 à 26 dans le sud-ouest et 28 à 30 degrés encore près de la Méditerranée.
Très bien, merci beaucoup Louis, à tout à l'heure.
RTL Soir.
Et c'est une victoire pour Marie Laguerre, Isabelle. L'homme qui l'a agressée cet été a reconnu les faits aujourd'hui.
Agression au cœur de l'été, le 25 juillet, parce que la jeune femme n'avait pas toléré le harcèlement de rue. Cette affaire, Marie Laguerre l'a médiatisée, elle l'a diffusée sur Facebook. Un suspect a été arrêté lundi à Paris, il sortait d'hôpital psychiatrique. Ce jeune homme de 25 ans a finalement avoué. Du reste, l'étudiante l'a formellement reconnu. Désormais, elle est soulagée et elle encourage toutes les victimes de harcèlement à porter plainte.
Lui justifie son geste par le fait que, je cite, « je me dandinais et que je suis passée devant lui, certainement pour de la guichet, je sais pas ». Il y a toujours cette idée que les femmes sont des allumeuses, qu'on fait ça pour l'attention. Non mais son explication, elle montre quand même que dans un sens, il justifie ses actions par quelque chose que j'aurais fait. Ça envoie malheureusement un message fort aux femmes, que la rue, c'est pas un espace qui est accueillant pour les femmes. Et malheureusement, c'est des choses qu'on a intégrées en fait dans notre vie. Ça influe sur notre liberté. Je pense par exemple la liberté de comment on va s'habiller, à quelle heure on va sortir, si on prend tel chemin. Tout ça quand même, juste de devoir prendre ces précautions-là, que cette idée même soit présente dans notre esprit, c'est déjà une atteinte à notre liberté. Honnêtement, je ne me sens pas libre de sortir quand je veux, habillée comme je veux. Parfois j'ose, mais ça m'arrive d'avoir peur. Voilà. C'est pas normal et c'est important de ne pas tolérer ces comportements-là et on va dire entre guillemets de résister, de porter plainte. Déjà symboliquement, même s'il n'y a pas de suite, c'est déjà très important. Ça permet de faire remonter les faits, de montrer qu'il y a un réel problème de société.
Marie Laguerre, donc au micro RTL d'Olivier Bois.
Et le suspect sera jugé demain en comparution immédiate.
C'est donc la rentrée pour tout le monde, Isabelle. À partir d'aujourd'hui, les syndicats et le patronat se retrouvent à Matignon.
Réunion autour du Premier ministre Édouard Philippe pour évoquer les gros dossiers à venir, notamment la réforme de l'assurance chômage. Les annonces de cette semaine sur le budget vont sans doute aussi s'inviter dans la conversation. Anaïs Bouissou, vous êtes à Matignon pour RTL. Premier round donc cet après-midi avec la CGT qui sort à l'instant de la réunion.
Oui, Philippe Martinez, visage fermé, agacé dans la cour de Matignon, il se montre ferme. Le dialogue promis par le chef de l'État, le numéro 1 de la CGT, ne le voit pas. Il parle de convocation pour réformer l'assurance chômage et il menace de ne
pas négocier une nouvelle réforme. La santé au travail, oui, il veut des avancées, mais pas sous la contrainte, pas pour sanctionner, dit-il, des pseudo-fraudeurs qui prendraient des indemnités d'arrêt maladie. Philippe Martinez vient de le rappeler au Premier ministre. La CGT, les travailleurs, selon ces mots, ne sont pas un faire-valoir. À l'ordre du jour, sa délégation a rajouté plusieurs points. Le syndicat demande une négociation sur les salaires, car dit-il, il faut reconnaître enfin le travail. Et Philippe Martinez prévient, à l'hôpital, à la SNCF et dans l'industrie, l'été n'a pas apaisé la colère des travailleurs. Comprenez, une mobilisation des syndicats n'est jamais loin.
À Matignon pour RTL, Anaïs Bouissou, donc Philippe Martinez qui sort de Matignon, le temps d'arriver ici à RTL à Neuilly, donc il sera là à 18h20, si tout va bien. Journée chargée pour Édouard Philippe donc, puisqu'il était en déplacement ce matin dans les Hautes-Alpes sur le thème de l'environnement, mais bien sûr donc sans Nicolas Hulot. Hein.
Oui, le désormais ex-ministre de la Transition écologique n'a pas encore quitté officiellement son bureau de l'hôtel de Roquelaure, mais évidemment pas question de poursuivre ses activités. C'est donc seul que le Premier ministre est allé au charbon, si l'on peut dire, pour parler de la gestion de l'eau, entouré du secrétaire d'État Sébastien Lecornu et de la députée Barbara Pompili. Bonsoir Dominique Tenza.
Bonsoir.
Vous étiez aux côtés d'Édouard Philippe cet après-midi. Officiellement, Hulot ou pas Hulot, eh bien, l'écologie continue.
Oui, eh bien, c'était le but, hein, l'objectif de ce déplacement prévu de longue date et qu'il a bien fallu adapter un peu en dernière minute. L'image, c'est vrai, est étrange. Il manque quelqu'un sur la photo et à demi-mot, le Premier ministre le reconnaît.
C'est une journée de convergence. Sur l'eau, pour le reste, c'est plus compliqué. Bref,
il préfère ne pas s'y attarder car c'est l'eau qui est au cœur de cette visite dans les Hautes-Alpes. Comment empêcher les fuites et mettre fin à l'immense gâchis de cette ressource précieuse? Édouard Philippe a d'ailleurs tenu à saluer le travail effectué par tous les acteurs de ce dossier.
Ce que vous avez fait est à la fois essentiel et très peu spectaculaire. Et nous vivons dans un monde où l'essentiel passe toujours après le spectaculaire.
L'allusion est à peine voilée, la démission soudaine hier de Nicolas Hulot. On sent bien que le Premier ministre l'a toujours en travers de la gorge, lui qui tient à défendre le bilan du gouvernement en matière d'écologie.
Ça ne sera jamais assez rapide, ça ne sera jamais assez haut niveau. Nous avons fait des choix qui sont parfois des choix contestés, mais que nous assumons totalement.
Manière de dire qu'il faudra plus que le départ d'un ministre, aussi médiatique soit-il, pour handicaper l'action du gouvernement. Hulot était un symbole. Et symboliquement, c'est embêtant, reconnaît Matignon. Avant d'insister sur le fond des dossiers, ça ne changera pas grand-chose.
Dans les Hautes-Alpes, donc, pour RTL, Dominique Tenza.
Épreuve malgré tout de l'embarras de l'exécutif, le séminaire gouvernemental de rentrée qui devait se tenir vendredi est reporté à la semaine prochaine. Le temps de trouver un remplaçant au ministre démissionnaire et de remanier le gouvernement, peu ou prou.
Bah oui, le remaniement, ce n'est ni pour aujourd'hui ni pour demain, parce que pour l'instant, Emmanuel Macron est au Danemark et il s'occupe de l'Europe.
Et le président joue au jeu des comparaisons. Il a ainsi comparé les Danois, peuple luthérien, ouvert aux transformations, et les Français, gaulois, réfractaires au changement, dit-il. Le chef de l'État a également répondu à Viktor Orban et Matteo Salvini, les dirigeants hongrois et italiens, figures de proue du populisme qui se sont rencontrés hier soir. Ils ont désigné Emmanuel Macron comme leur principal adversaire en Europe. Un statut qui, en fait, convient parfaitement au président français, Béatrice Adjage.
Mais oui, ce n'est pas la première fois que le président français relève le gant. Depuis juin dernier, depuis que le leader populiste Matteo Salvini a été nommé ministre de l'Intérieur, les échanges entre lui et Emmanuel Macron sont tranchants. La nouveauté, c'est que depuis hier, Matteo Salvini a un allié, le Premier ministre hongrois Viktor Orban, partisan de la démocratie illibérale, autoritaire et exclusivement chrétienne. Orban, qui hier à Milan a mis en scène son opposition au président français. Il y a deux camps en Europe, dit Orban. L'un est dirigé par Macron, à la tête de forces politiques soutenant l'immigration. Et nous voulons arrêter l'immigration illégale, conclut-il. Ciblé Emmanuel Macron a donc répondu du Danemark.
Il est clair qu'aujourd'hui, en effet, se structure une opposition forte entre nationalistes et progressistes. Et je ne céderai rien aux nationalistes et à ceux qui prônent ce discours de haine. Et donc, s'ils ont voulu voir en ma personne leur opposant principal, ils ont raison.
Dans cet épisode, deux points à retenir. C'est Emmanuel Macron et non pas Angela Merkel qui devient l'ennemi à abattre de la droite populiste en Europe. Pourtant, c'est la chancelière allemande qui a laissé entrer 1 million de migrants en 2015. Autre fait intéressant à suivre, la droite populiste a toujours du mal à s'organiser en Europe. C'est son point faible. Y arrivera-t-elle cette fois-ci d'ici les élections européennes du 26 mai prochain ? À voir et de très près.
Merci Béatrice Adjadj du service étranger de RTL.
RTL soir à 18h10.
On va marquer une petite pause et dans un instant, bientôt la rentrée. Et figurez-vous qu'il y a de moins en moins d'écoles à Paris.
RTL soir, il est 18h11. Marc-Olivier Fogiel et la suite du journal d'Isabelle Choquet.
Et J-5 avant la rentrée des classes, Isabelle, et visiblement le ministre de l'Éducation a bien fait ses devoirs de vacances.
Hein. Oui, Jean-Michel Blanquer vient de livrer les grandes lignes de cette année scolaire. Une certitude, les réformes continuent et notamment le dédoublement des classes de CP dans les quartiers défavorisés.
En cette rentrée, nous allons plus que tripler le nombre d'élèves concernés. Nous montons à 190 000 élèves. C'est considérable. L'année prochaine, ce sera 300 000. 300 000 élèves par an sont particulièrement ciblés pour pouvoir prendre un bon départ dans la vie et réussir, comme les autres, à maîtriser les savoirs fondamentaux.
Jean-Michel Blanquer avec Marie Guerrier pour RTL.
Et puis on parle souvent de la disparition des écoles dans nos campagnes. Eh bien, figurez-vous qu'à Paris aussi, on ferme des écoles. 3 000 élèves en moins en primaire à chaque rentrée depuis 3 ans. Et la tendance doit se poursuivre jusqu'en 2020. Paris, c'est trop cher. Une dizaine d'établissements sont en sursis. Charlotte Baris, vous avez rencontré une famille qui précisément ne peut plus assumer le train de vie dans la capitale.
Oui, depuis un an, Édouard et sa femme ont quitté le 10e arrondissement de Paris, direction Asnières, dans les Hauts-de-Seine, pour offrir un meilleur cadre de vie à Victoire, leur fille de 3 ans.
Elle devait absolument avoir une chambre bien à elle. Et malheureusement, sur Paris, économiquement, cela ne nous était pas possible. Pour avoir l'équivalent de ce que nous avons aujourd'hui à Asnières, il faudrait compter à peu près 450 euros de plus par mois de loyer. Il n'y a pas que les prix des loyers qui sont moindres, il y a aussi le coût de la vie. Ne serait-ce que faire ses courses, c'est vraiment beaucoup moins cher que quand vous êtes dans Paris intramuros.
Comme Édouard, beaucoup de parents quittent la capitale, alors les écoles de Paris voient leur nombre d'élèves diminuer. Mais Patrick Bloch, en charge de l'éducation à la mairie, assure qu'il ne faut pas craindre une vague de fermeture.
Ce qu'on perd en quantité, si j'ose dire, va nous permettre et va nous donner des moyens en termes de qualité d'accueil. Se dire, finalement, ça va permettre de maintenir, voire même peut-être, ayons cette perspective de baisser le niveau des effectifs par classe.
La mairie et l'Académie de Paris disent aussi privilégier les fusions entre les écoles qui pourraient manquer d'élèves pour éviter au maximum toutes les fermetures.
Charlotte Baris, on parlait tout à l'heure donc du déplacement d'Édouard Philippe sur le thème de l'eau. Comme en politique, le gouvernement a bien l'intention de colmater les brèches.
Oui, car le réseau de distribution français est une véritable passoire. 1 litre d'eau sur 5 part dans la nature, c'est énorme. Il faut d'urgence réparer les tuyaux, mais les collectivités sont à la peine. Alors, l'État met la main à la poche, Virginie Garin.
Oui, car il y a de plus en plus de sécheresse en France. L'eau est précieuse. L'État veut donc aider les communes à stopper le gaspillage. Et comme réparer les tuyaux, ça coûte cher, les communes traînent les pieds. Alors, chaque année, seulement 0,6% du réseau est remplacé. À ce rythme, il faudrait plus de 160 ans pour changer toutes les canalisations. Et plus elles vont vieillir, plus nos factures vont augmenter. L'État va financer des prêts via la Caisse des dépôts, 2 milliards d'euros pour aider les collectivités. Pour trouver de l'argent, l'État va créer un bonus-malus. Les communes qui ne feront aucun effort verront leur redevance augmenter. Alors le Premier ministre qui a annoncé aussi la création d'un chèque eau comme le chèque énergie pour aider les foyers modestes. Il sera mis en place dès janvier prochain dans les communes volontaires. Il est testé à Rennes par exemple. Un chèque de 30 euros par an est versé aux personnes les plus en difficulté pour les aider à payer leurs factures.
Merci beaucoup Virginie Garin, spécialiste environnement de RTL. On va terminer avec l'adieu à Rosa Buglione. C'était ce matin au Cirque d'Hiver à Paris.
La matriarche de la plus célèbre famille française du cirque s'est éteinte dimanche. Elle allait avoir 108 ans. C'est en 1934 qu'elle avait acheté le Cirque d'Hiver. C'est donc là que se sont retrouvés ses 55 descendants pour un dernier hommage. Tous les grands noms du cirque étaient là car Rosa Buglione, c'était une légende, Anne Lehenas.
Oui, c'est une musique inhabituelle qui a résonné sur la piste de ce Cirque d'Hiver. Une cérémonie religieuse, un ultime spectacle sous un grand portrait en noir et blanc de Rosa Buglione. Son petit-fils Joseph et son neveu Thierry ont repris le flambeau.
À 107 ans, c'était la doyenne du cirque, c'était la grand-mère. On allait à l'école et on apprenait ici le métier du cirque avec des artistes. Et lorsqu'elle passait, elle regardait, elle disait un conseil ou un défaut, tiens, tu fais pas ça bien, faites comme ça.
C'est triste parce qu'on perd quelqu'un de très cher. La piste est ronde, c'est comme un cercle. Et le cercle se referme, t'es une grande dame de la piste.
Et la piste était ce matin envahie de fleurs. Des voisins sont venus lui dire adieu, ainsi que les grands noms du cirque traditionnel, comme Diana Moreno du cirque Borman Moreno.
Elle part, mais avec elle part un monde qui disparaît. C'est tout un passé qui s'en va. C'est un personnage qui était aimé par tout le monde. Elle et son mari, ils venaient voir les petits, les grands, ils s'arrêtaient. Ils venaient voir un petit café.
Mais le spectacle continuera, car tant qu'il y aura des enfants, il y aura du cirque, disait Rosa.
Merci beaucoup Anne Le Naf. Isabelle, vous revenez tout à l'heure à 18h30, les clés pour bien comprendre l'actualité. 300 000, oui, 300 000, c'est le nombre d'emplois vacants en France pour faire face à cette pénurie de main-d'œuvre. Plusieurs secteurs, vous le savez, comme l'hôtellerie-restauration ou le bâtiment, réclament au gouvernement de faciliter l'embauche de migrants. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce compliqué de les embaucher? Et demain, comment ça pourrait se passer, Christophe Ponzio?
Alors c'est compliqué parce que pour pouvoir travailler, il faut des papiers et qu'un migrant en arrivant sur le territoire français n'en a pas. Première étape, il doit d'abord déposer une demande d'asile à la police aux frontières ou en préfecture. Une fois la demande enregistrée, le migrant doit attendre 9 mois, impossible avant 9 mois, pour lancer uniquement ses démarches et tenter d'obtenir une autorisation de travail temporaire. Sauf que pour l'obtenir, les conditions de l'administration sont très strictes. Il faut que le taux de chômage du secteur dans lequel il postule soit bas. Les vérifications prennent là encore du temps. Et puis deuxième condition, il faut que la personne ait déjà une promesse d'embauche ou un contrat de travail. Rien n'est donc automatique pour le demandeur d'asile et tout prend du temps, ce qui décourage de nombreux patrons qui veulent embaucher immédiatement.
Et alors Christophe, que proposent ces secteurs en pénurie de main-d'œuvre pour y remédier?
Eh bien une accélération des procédures. D'ailleurs, la loi Asile-Immigration prévoit que les 9 longs mois d'attente pour demander une autorisation de travail passent à 6 mois. D'autres plaident pour une régularisation des travailleurs sans papier ou bien une solution intermédiaire, le travail d'abord pour répondre à la pénurie, puis les papiers. Aujourd'hui, ce n'est possible qu'après 5 ans passés en France. Des discussions avec le gouvernement pourraient reprendre prochainement.
RTL Soir, il est 18h17.
Allez, à suivre, quelle ambiance en cette rentrée sociale? On pose la question au premier invité d'RTL Soir, c'est Philippe Martinez. Il sort tout juste de Matignon, il arrive à l'instant.